Chapitre 2. Aristote. Dirty Biology. En tous les êtres naturels, il y a des merveilles. Aristote ne passe pas pour un ami des sciences. Il n'est pas rare aujourd'hui qu'on s'en moque franchement, et plus encore depuis que Bruce Benhamran, créateur de l'une des plus populaires chaînes de vulgarisation scientifique francophone, Y Penser, comptant plus d'un million d'abonnés, auteur de livres de vulgarisation non moins populaires, en a fait un gag récurrent. « Aristote », soupire-t-il d'un air navré devant chaque bourde du philosophe. Car, sur quelque sujet d'étude que ce soit, il semble que tout puisse commencer par « voici ce qu'Aristote en pensait » et c'était évidemment une erreur. Aristote aurait parlé de tout et se serait trompé sur tout. Véritable boussole du faux, pointant avec une constance admirable dans la mauvaise direction. Aristote serait celui qui a toujours eu tort en science, sur les grands principes aussi bien que sur les détails. N'a-t-il pas écrit que les femmes ont moins de dents que les hommes ? Si c'est surprenant, ne le croyez pas sans source. Une bonne part de ce qu'on attribue à Aristote est simplement erronée ou excessivement déformée. En l'occurrence, cette affirmation est authentique, et il n'est pas difficile d'en trouver la source si l'on s'en donne la peine. Les mâles ont plus de dents que les femelles, aussi bien chez l'homme que dans les moutons, les chèvres et les porcs. Histoire des animaux. Cet exemple est célèbre pour avoir été pointé par le philosophe anglais Bertrand Russell, qui ironisait sur ceci qu'Aristote, marié deux fois, ne s'était visiblement avisé de compter les dents d'aucune de ses femmes. Il faut croire que Russell, marié quatre fois, avait eu le bon sens de compter dans la bouche des siennes pour s'assurer de la bêtise de son prédécesseur. Ou peut-être pas. Peut-être a-t-il simplement admis ce que les traités d'anatomie de son temps lui permettaient de savoir sans se lever de son fauteuil. Russell, au début du XXe siècle, pouvait se contenter d'ouvrir un livre plutôt que la bouche de ses contemporains pour savoir qu'Aristote avait tort. C'est pratique. Aristote n'avait pas cet avantage. Il vivait en un temps que les moins de 2400 ans ne peuvent pas connaître, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Un temps où aucune discipline scientifique ne se souciait de déterminer le nombre de dents des animaux, humains ou non. Cela fait une grosse différence, et si Aristote s'est trompé sur ce point de denture, je lui reconnais le mérite d'avoir pris le risque d'écrire et donc de se tromper à ce sujet, et d'écrire et de se tromper sur bien d'autres sujets encore. La connaissance ne peut progresser qu'en prenant de tels risques. On pourrait objecter que, tout de même, pour se tromper sur cette affaire de dents, il faut vraiment n'avoir observé la bouche de personne, et qu'Aristote, en cela, est bien une caricature de philosophe, dédaigneux de l'observation, enfermé dans sa bulle de spéculation, de pure logique, établissant a priori et par voie de syllogisme que les corps plus lourds tombent plus vite que les légers. Car c'est une autre de ses erreurs, la plus fameuse de toutes, et celle qui semble illustrer définitivement le dédain d'Aristote pour l'observation. Comment a-t-on pu croire pendant deux millénaires que les objets les plus lourds tombent plus vite ? Enfin, Galilée vint qui observa qu'une boule de plomb, lourde, et une boule de liège, légère, lâchées du haut d'une tour, touchent le sol en même temps. Tous les objets tombent bien à la même vitesse, comme chacun sait depuis la révolution scientifique. Par une simple expérience de Galilée, voilà Aristote réfuté et la science moderne créée par la même occasion. Il suffisait d'ouvrir les yeux pour regarder le monde plutôt que de répéter les erreurs de ce vieux grec. Que n'y a-t-on pensé durant deux millénaires ? Sauf que non, pas du tout. Opposer l'observation terre à terre du scientifique Galilée à la spéculation hors sol du philosophe Aristote, cela n'a aucun sens. Ce lâcher de boule du haut de la tour de Pise n'a d'ailleurs jamais eu lieu. C'est un mythe qui n'est entretenu que par ceux qui, précisément, n'ont jamais rien lâché du haut de la tour de Pise ou même d'un troisième étage. Faites l'expérience. Si le temps de chute dure plusieurs secondes, la boule de plomb sera bien la première à toucher le sol, observation qui confirme Aristote, non Galilée. Et quoi ? Aristote aurait raison ? À vrai dire, selon le physicien contemporain Carlo Rovelli, la physique d'Aristote est bien une approximation correcte de la physique de Newton dans un domaine de validité plus restreint, mais qui correspondait précisément aux observations naturelles qu'Aristote cherchait à décrire, des objets immergés dans un fluide, eau ou air, à la surface de la Terre. En somme, Aristote avait raison, oui, jusqu'à un certain point. Voir Carlo Rovelli, Aristotle Physics, A Physicist's Look. La physique aristotélicienne est une approximation correcte et non intuitive de la physique newtonienne dans son domaine approprié, le mouvement dans des fluides, au même sens technique selon lequel la théorie de Newton est une approximation de la théorie d'Einstein. La physique aristotélicienne s'est longtemps imposée, non pas parce qu'elle était un dogme, mais parce que c'est une très bonne théorie fondée empiriquement. Si Galilée a bien raison lui aussi sur la chute des corps, c'est qu'il n'étudie pas tout à fait la même chose qu'Aristote. Il s'intéresse à la chute des corps, et plus particulièrement à l'accélération de cette chute, en faisant abstraction de l'effet du milieu, autrement dit une chute dans le vide. Aristote ne le concevait pas. Il n'y a pas d'objets chutant dans le vide autour de nous, seulement des objets immergés dans des fluides d'eau ou d'air, et c'est le mouvement de ces objets que sa théorie visait à décrire. Pour voir une plume et un marteau tomber réellement à la même vitesse comme prévu par Galilée, il aura fallu attendre de réaliser l'expérience sous des cloches à vide, ou tout bonnement sur la Lune, ce que fit l'équipage de la mission Apollo 15. Tant qu'à aller sur la Lune, autant en profiter. Ainsi, l'observation directe ne pouvait pas justifier Galilée. Pour étudier la chute des corps, abstraction faite de l'effet du milieu, il lui fallut procéder de façon très ingénieuse à des expérimentations sur des plans inclinés qui permettaient de réduire la vitesse de chute en supposant que les résultats observés dans ces conditions particulières permettraient bien de spéculer sur ce qui se produirait pour le cas abstrait d'une chute dans le vide. En somme, présenter Aristote en pur spéculateur et Galilée en simple observateur, c'est non seulement une caricature grossière, mais c'est surtout une caricature en contresens. Galilée était bien plus qu'un simple observateur, et de tous les reproches que l'on peut faire à Aristote, celui selon lequel il refuserait de se fier aux observations est peut-être le plus infondé. Aristote est justement le philosophe de l'empirisme. Pour lui, la connaissance se base toujours et avant tout sur l'observation, sur l'expérience sensible. Comment diable expliquer cette affaire de dents mal comptées ? Pour un empiriste, n'est-ce pas le signe d'un sérieux manque d'observation ? Eh bien, il faut l'admettre, c'est une erreur. L'observation, après tout, est faillible, et ces erreurs ne représentent jamais qu'une poignée de phrases tirées des traités biologiques d'Aristote qui recensent littéralement des milliers d'observations. Il faut prendre la mesure de l'énormité de son œuvre sur le sujet. C'est en quelque sorte la première encyclopédie du monde vivant jamais écrite. Cette erreur fait partie des plus grossières qu'on y ait relevées et elle semble surprenante quand on la considère en elle-même, mais il n'y a en fait rien de surprenant à ce qu'un certain nombre de bourdes se glissent dans une œuvre d'une telle envergure écrite à une telle époque. Il eût fallu ne rien écrire ou écrire bien peu pour ne jamais se tromper. En outre, plutôt que de s'en servir pour ridiculiser le philosophe, il est intéressant de réfléchir à ce qui pourrait l'avoir causé. La dentition est-elle un phénomène si simple à étudier chez les êtres humains ? Les dernières dents de sagesse, qui sont d'ailleurs décrites dans le paragraphe suivant du texte d'Aristote que je citais précédemment, apparaissent tardivement dans la vie de l'individu et à un âge variable. Les grossesses peuvent causer des pertes de dents, qui seraient pour cette raison plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. Cet effet s'observe encore aujourd'hui. Rassembler un échantillon d'êtres humains à la denture complète et bien formée pour établir en toute rigueur le nombre de dents des deux sexes n'est peut-être pas une tâche si aisée. Somme toute, nous sommes bien mal placés pour reprocher quelques inexactitudes au premier qui tâcha de mettre de l'ordre dans ce vaste foutoir qu'est la biologie. Car Aristote ne se contente pas de collectionner des observations. Ses ouvrages sont animés par un remarquable souci de logique et de classification. Dans Les parties des animaux, par exemple, il entreprend de comparer les organes de différents animaux en les identifiant à partir de leurs fonctions dans l'organisme, faisant ainsi de la biologie comparée avant l'heure. Écrire une description complète, détaillée et ordonnée du monde vivant, c'est ambitieux à quelque époque que ce soit. Le faire au IVe siècle avant Jésus-Christ sans se référer à des travaux antérieurs, c'est héroïque. Aristote tenait à se fonder avant tout sur l'observation, mais il ne pouvait évidemment pas se fonder uniquement sur des observations directes. Il travaillait avec des sources à la fiabilité plus aléatoire, témoignages de pêcheurs, d'éleveurs, récits, croyances populaires, dont certaines paraissent fantaisistes aujourd'hui. Mais les œuvres d'Aristote regorgent aussi de descriptions biologiques reposant sur des observations de première main qu'il n'a pu obtenir qu'en réalisant des dissections et dont on salue encore aujourd'hui l'étonnante précision. Une de ses prouesses les plus intéressantes est sa description du développement de l'embryon de poule, ce qui fait d'Aristote le père de l'embryologie. Comment passe-t-on d'un tas de matière indifférenciée à un poussin vivant ? C'est un phénomène dont on oublie à quel point il devait, et peut encore, sembler extraordinaire et mystérieux. Et Aristote était prêt à se salir les mains pour percer ce mystère. Il aura cassé et disséqué bien des œufs afin d'offrir à la postérité la première description précise et informée de la genèse d'un être vivant. Certes, la théorie des éléments ou des quatre causes d'Aristote semble aujourd'hui si dépassée qu'il est facile d'y opposer celle des atomistes de l'Antiquité dont les intuitions semblent s'être révélées plus justes. La vision mécaniste et matérialiste d'un Démocrite, par exemple, le monde comme un vaste chaos d'atomes, voilà qui prend une résonance familière à nos oreilles. Nous savons aujourd'hui qu'il n'y a pas de cause finale derrière l'organisation des êtres vivants, rien que des mécanismes chimiques complexes nés du hasard et de la sélection naturelle, et en cela, la science semble avoir donné raison à Démocrite contre Aristote, défenseur des causes finales. Mais ni Aristote ni Démocrite n'avaient la moindre idée des mécanismes au cœur du vivant que nous comprenons aujourd'hui. Quand Aristote étudie l'embryogenèse, quand il observe méthodiquement comment une substance indifférenciée se transforme en un poussin vivant, n'a-t-il pas de bonnes raisons de croire qu'il ne s'agit pas d'un processus aveugle et mécanique, mais de l'effet d'une cause finale donnant progressivement forme à cette matière ? Comment expliquer sinon que l'ordre naisse du chaos et que d'un œuf de poule sorte toujours une poule ? Nous avons la réponse, ou tout au moins une partie de la réponse, maintenant que nous comprenons les mécanismes chimiques sous-jacents, mais elle était absolument hors de portée de tous les philosophes de l'Antiquité, et nous oublions parfois à quel point cette réponse est étonnante. Une explication non finaliste du vivant à quelque chose de presque inconcevable. Ainsi, l'intuition de Démocrite rejetant les causes finales tient peut-être aussi en partie à une certaine superficialité de ses connaissances. Lui, au contraire d'Aristote, n'a jamais disséqué d'œuf de poule. Et Aristote est certainement le plus rigoureux et le mieux informé des deux, sur ce point en tout cas. En somme, lorsque nous nous penchons sur l'histoire des sciences, il importe de comprendre les raisons que les uns et les autres avaient au moment de formuler leurs pensées. Se contenter de distribuer des bons et des mauvais points en fonction de la correspondance plus ou moins grande de ces pensées à ce que la science nous permet de tenir pour vrai aujourd'hui, c'est avoir une vision très étroite, non seulement du passé des sciences, mais probablement aussi de leur avenir, puisque cela revient en somme à les réduire à leur état présent. S'il m'attriste à ce point de voir Aristote caricaturé en némésis du progrès scientifique, en roi des ânes, c'est qu'il me semble justement qu'aucun philosophe de l'Antiquité n'a eu pour la connaissance et l'enquête empirique une passion comparable à la sienne. Aucun n'a témoigné autant que lui dans ses écrits des qualités scientifiques par excellence que sont la curiosité et la jubilation d'apprendre et de comprendre. Aristote insiste d'ailleurs à de multiples reprises sur le caractère naturel de notre désir de connaissance et sur l'importance du plaisir que nous en tirons. En témoignent par exemple les premiers mots de la métaphysique. Tous les humains ont par nature le désir de savoir, suivi d'un développement sur le plaisir pris aux sensations pour ce qu'elles nous font connaître. Venons-en enfin au texte d'Aristote que je tenais à présenter dans ce chapitre. Il s'agit d'un passage des Parties des animaux qui évoque justement ce plaisir de connaître et qui offre ceci d'intéressant et de presque touchant, qu'il évoque plus spécifiquement le plaisir de connaître les choses les plus répugnantes et réputées ignobles. Ce Ce texte me donne l'impression qu'Aristote tâche d'expliquer et presque de s'excuser d'avoir passé tant d'années à examiner non pas seulement les cieux et les mathématiques, comme tous les Grecs savants de son temps, mais aussi des embryons de poules, des viscères d'animaux, toutes sortes de poissons, oiseaux, crustacés, insectes, autant de choses qui semblaient sans doute nettement plus sales et dérisoires aux yeux de beaucoup de ses contemporains. Il m'est difficile d'imaginer son maître Platon disséquant minutieusement une seiche pour noter les spécificités de son système digestif, mais qui devrait sembler tout aussi belles et passionnantes aux véritables amoureux des sciences. Parmi les substances constituées par nature, écrit Aristote, les unes, inengendrées et incorruptibles, existent pour absolument toute l'éternité, tandis que les autres ont part à la génération et à la corruption. Or, il se trouve qu'à propos des premières, toutes dignes et divines qu'elles soient, notre étude est moins avancée, car en ce qui concerne aussi bien ce à partir de quoi on peut les examiner que ce que nous désirons savoir à leur propos, les évidences sensibles sont extrêmement réduites. En revanche, à propos des plantes et des animaux mortels, nous avançons plus facilement dans leur connaissance du fait que nous vivons avec eux. Chacune des deux études a son charme. Même si, en effet, nous les atteignons fort peu, la connaissance des êtres éternels, du fait de sa valeur, donne plus de plaisir que celle d'absolument tous les êtres qui sont près de nous, comme aussi le fait d'apercevoir n'importe quelle partie des êtres aimés est plus agréable que de voir avec précision beaucoup d'autres grandes choses. Mais les choses périssables, parce que nous avons sur elles une connaissance meilleure et plus importante, nous fournissent plus de science. Une remarque avant d'aller plus loin. Ces substances inengendrées et incorruptibles, ces êtres éternels dont la connaissance est présentée comme si difficile, ce sont les astres. Ainsi, dans ce passage, Aristote assimile le plaisir que l'on tire de la connaissance du ciel, si maigre soit-elle, au plaisir intense que procure la vision fugitive d'un être aimé. N'est-ce pas joli? Mais lisons la suite de ce passage qui se penche sur la biologie et devient nettement plus dirty. Il reste à traiter de la nature animale en ne négligeant rien autant que possible, que la chose soit plus ou moins noble ou ignoble. Car même quand il s'agit d'animaux qui ne sont pas agréables à percevoir, en ce qui concerne la connaissance théorique, la nature artiste procure d'extraordinaires plaisirs à ceux qui sont capables d'en connaître les causes, c'est-à-dire qui sont philosophes par nature. C'est pourquoi il faut éviter un dégoût puéril en considérant les animaux les plus ignobles. Car dans tous les êtres naturels, il y a quelque chose de merveilleux. Et, comme on rapporte qu'Héraclite l'a dit à des étrangers qui voulaient le rencontrer, mais qui s'arrêtèrent en entrant, le voyant se chauffer près de son four, il les invita en effet à entrer hardiment, car, disait-il, là aussi il y a des dieux. De la même manière aussi, il faut aborder la recherche sur chacun des animaux sans répugnance, parce que chez absolument tous, il y a quelque chose de naturel, c'est-à-dire de beau. Aristote. Les parties des animaux. La note du traducteur concernant l'anecdote sur Héraclite se chauffant près de son four indique « Il s'agit peut-être d'un euphémisme pour dire qu'il faisait ses besoins. » Voilà qui aurait le mérite d'expliquer pourquoi les visiteurs se montrent un peu hésitants à l'idée d'approcher du four d'Héraclite. Cette suggestion est peut-être un peu trop belle et sale pour être vraie, mais ne rend-elle pas ce passage plus savoureux et frappant ? Il faut sans répugnance examiner toute chose dans la nature, car dans tous les êtres naturels, il y a quelque chose de merveilleux. Dans tous, en effet. Un dernier mot. La tradition de faire d'Aristote, et surtout des aristotéliciens, un ennemi des sciences remonte au moins à Galilée et à Descartes, et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles il est tentant de lui lancer sa pierre. On se sent en bonne compagnie. Selon une lecture de l'histoire des sciences qui commence à s'imposer au XVIIe siècle, l'aristotélisme aurait fait peser une chape de plomb intellectuelle sur le Moyen-Âge, freinant tout progrès, jusqu'à ce que les héros de la révolution scientifique réussissent à nous en libérer. Mais cette narration est largement faussée. La réception d'Aristote au cours des deux millénaires qui le séparent de Galilée a été bien plus riche, complexe et féconde que cette caricature ne le laisse penser. L'idée d'un dogmatisme aristotélicien semble en fait profondément contraire à l'esprit même de ses œuvres qui n'invitait aucunement à être prise comme source incontestable de connaissances pour les siècles à venir. Tout au contraire, Aristote, à travers ses écrits, donne l'impression d'avoir été l'un des esprits les plus ouverts et investigateurs que le monde grec ait connu, prêt à disséquer minutieusement des poulpes aussi bien qu'à observer longuement les cieux. Plutôt que l'ennemi des sciences, il serait infiniment plus juste de voir en lui la curiosité scientifique incarnée. Quelques livres pour aller plus loin. Armand-Marie Leroy, La Lagune et Aristote inventa la science. Flammarion, 2017. Ni biographie, ni étude, c'est une sorte de récit d'aventure intellectuelle. Aristote, évincé de la succession de l'Académie après la mort de Platon, s'installe dans la lagune de Pyra à Lesbos avec son ami Théophraste. Le premier y étudiera la faune, l'autre la flore, et nous assisterons à la naissance de la biologie comme discipline scientifique. Et c'est justement un professeur de biologie, Armand-Marie Leroy, qui nous guide dans ce récit passionnant qui permet de découvrir et d'apprécier un Aristote fait de chair et de sang plutôt que de papier. Aristote, Les parties des animaux, Flammarion, collection GF, 2014. Disons les choses clairement, aucun ouvrage d'Aristote n'est à conseiller à un néophyte. C'est souvent difficile à lire, notamment parce que ce ne sont pas des œuvres littéraires, comme les dialogues de Platon, mais des sortes de notes de cours rassemblées de façon posthume. Toutefois, les ouvrages biologiques comme celui-ci ne manquent pas de charme et gagnent à être feuilletés. Au hasard des pages, vous trouverez Aristote discutant des oreilles des mammifères ou de la taille de la rate corrélée à la forme des pieds. Vous dénicherez aussi quelques beaux passages, comme celui présenté dans ce chapitre, ou un autre fameux sur la main humaine. Cerise sur le gâteau aristotélicien, cette édition est bilingue. Même sans lire le grec, il y a un plaisir à songer que ce sont bien les mots mêmes d'Aristote que nous regardons 2400 ans plus tard. Donald G. Allan, Aristote, le philosophe, le livre de poche, 2002. Une introduction classique à toute l'œuvre d'Aristote qui a le mérite d'être courte et digeste.